Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, l'actualité de la recherche, elle est très dense, notamment avec la publication, il y a quelques semaines, d'une étude positive sur une nouvelle molécule qui pourrait traiter les maladies d'Alzheimer très débutantes, sans oublier d'autres avancées qui ont été signalées par la presse, notamment dans le domaine des biomarqueurs, qui permettent de faciliter le diagnostic. C'est ce dont va nous parler le docteur Rémy Genton, qui est directeur scientifique adjoint de la Fondation Recherche Alzheimer.
Bonjour à tous et merci d'être nombreux et de répondre donc à cette proposition d'échange avec toute la communauté qui s'intéresse à Alzheimer, des chercheurs aux soignants, passant par les aidants bien sûr, toute cette communauté qui se rassemble pour lutter contre ce fléau, avec effectivement des avancées. Alors bien sûr, ça ne va jamais aussi vite qu'on le souhaiterait, il y a des déconvenues, il y a des ajustements à faire en permanence, mais ça progresse et j'espère vous en convaincre. Mon but, c'est vraiment de vous montrer comment les choses bougent et de redresser peut-être certains messages erronés qui circulent et qui sont quelquefois un peu exagérés dans le pessimisme ou à l'inverse dans l'optimisme. Donc il faut être réaliste, les choses progressent et j'espère que vous en convaincre. Après moi, il y a le professeur Vallon qui va parler, donc il pourra corriger certains de mes propos parce qu'il a une compétence plus grande que la mienne, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qui passe les slides ? Oui, merci. On enchaîne. Ah, l'outil magique. Alors, je ne veux pas trop interférer avec l'intervention suivante qui va porter sur l'imagerie, mais il faut quand même que je vous dise un mot des biomarqueurs, parce qu'une des avancées majeures, en effet, c'est ces biomarqueurs, c'est-à-dire des moyens techniques de faire un diagnostic. Vous allez voir que c'est très important pour faire avancer la recherche thérapeutique, il faut traiter les bons malades. La recherche clinique, je vais vous faire un petit point en insistant beaucoup sur les traitements qui visent à modifier le cours de la maladie, parce qu'on a des traitements symptomatiques, imparfaits certes, mais avec une maladie qui évolue, il n'est pas certain qu'on puisse faire beaucoup mieux. Le but, c'est vraiment d'interférer sur le cours de la maladie en arrivant à bloquer sa progression. Et puis peut-être, j'espère avoir le temps de vous montrer quelques perspectives sur ce qui peut se passer. Pourquoi révolution des biomarqueurs ? Donc, bon, en haut à droite, vous avez les deux fameuses lésions connues pour la maladie d'Alzheimer, hein, donc reconnues au début du XXe siècle. Deux lésions, avec, en fait, ce sont des pots de protéines anormales. La protéine A-bêta, enfin le peptide, parce que c'est une petite protéine, le peptide A-bêta qui forme ces fameuses plaques dites amyloïdes, et les anomalies de la protéine Tau qui, elles, sont à l'intérieur des neurones, et qui, donc, on appelle les dégénérescences neurofibrillaires, enfin, donc, encore une protéine qui est une protéine physiologique présente normalement, mais qui, là, se déforme, elle se phosphorylise et elle donne des anomalies, et l'une et l'autre vont contribuer à tuer les neurones par un petit peu asphyxie et manque de fonctionnement normal du neurone. Alors, à l'époque, on ne faisait le diagnostic que si on avait le cerveau, donc après, bien sûr, le décès des patients. Toute la neurologie s'est fondée comme ça, hein, comparaison anatomo-clinique, donc la clinique, et puis qu'est-ce qu'on trouve après, et on comprend mieux le fonctionnement. Mais aujourd'hui, on a fait quand même quelques progrès, et notamment l'imagerie. Vous allez avoir une intervention spécifique là-dessus, donc je n'insiste pas. Et aussi le moyen de faire des prélèvements biologiques au plus près du cerveau, c'est-à-dire dans ce liquide céphalo-rachidien qui circule autour du système nerveux central, et qui donc reflète ce qui s'y passe et où on peut doser ces deux fameuses substances. C'est des progrès considérables parce qu'on peut maintenant accéder du vivant du patient à un diagnostic de certitude. Jusqu'en 2007, on avait des critères qui étaient essentiellement cliniques, troubles de la mémoire, personnes âgées, évolution progressive, pas de cause évidente, une imagerie grossièrement normale à part une petite atrophie, on disait Alzheimer. Ce n'était pas suffisant parce qu'on s'est aperçu que dans les premières études de grande envergure qu'on a monté pour modifier le cours de la maladie, en fait, on incluait un certain nombre de patients qui n'avaient pas ces fameuses lésions amyloïdes, entre autres. Donc, on tapait à côté et on n'avait aucune chance de montrer quelque chose. 30% dans certaines études n'avaient pas le bon diagnostic, en fait. Donc, voilà une première étape qui a été franchie grâce à l'avenue de ces biomarqueurs et grâce notamment à ce groupe de travail conduit et initié par notre directeur scientifique, le professeur Dubois, qui a monté un groupe de travail international qui a fait cette avancée considérable de mettre en pratique, d'insérer dans la pratique de la recherche cette avancée des biomarqueurs. Donc une première publication en 2007, et puis le vocabulaire s'est affiné et on est arrivé à des critères qui maintenant sont assez répandus. Donc traiter les bons patients, et deuxièmement, les traiter au bon moment. Alors en haut, je vous ai fait figurer donc des schémas de coupe de cerveau, hein, un cerveau normal à gauche, un cerveau pathologique à droite, vous voyez qu'il y a une atrophie. Atrophie, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a une perte de neurones. Perte de neurones, on ne sait pas les faire repousser, donc l'évidence, c'est qu'il faut traiter plus tôt. Est-ce qu'on le peut ? Oui, on le peut. Parce que justement, cette courbe en bas, ces courbes en bas vous montrent, de façon théorique, mais de façon qui reflète bien la réalité, la progression chronologique des biomarqueurs. Vous avez indiqué à la fin le stade ultime de la maladie, c'est-à-dire le stade appelé démentiam, enfin ces troubles du trouble cognitif sévère, précédé du MCI, qui est le trouble cognitif léger, et précédé d'une phase préclinique où il n'y a pas de symptômes. Et vous voyez que les biomarqueurs, notamment le fameux bêta-amyloïde et le fameux tau, qu'on le repère par imagerie ou par biologie, sont très précocement anormaux. Très précocement anormaux, ça peut être... Alors ça, on le sait grâce à des études portant sur des familles, heureusement rares, mais qui ont une maladie d'Alzheimer génétique, et on sait que ces biomarqueurs, ils apparaissent très très longtemps avant la pathologie, de l'ordre de 10 à 20 ans, enfin, voilà, l'ordre de grandeur. Donc, on peut intervenir, on peut diagnostiquer avant que la maladie soit présente, donc on peut diagnostiquer avant que l'atrophie, qui est en bleu, là, soit mise en place. C'est vraiment une intervention précoce qui pourrait s'appeler prévention secondaire. Donc, armé de... Donc, voilà. Oups. Voilà. Donc, voilà les deux progrès qu'ont permis ces biomarqueurs. Traiter les bons patients, être sûr du diagnostic. Et deuxièmement, les traiter au bon moment. Traiter plus tôt. Une autre évolution se prépare. C'est l'entrée en piste de biomarqueurs qui sont plus accessibles que l'imagerie, qui aura toujours sa place, ou que la ponction lombaire, qui, sans être extrêmement interventionniste, est quand même une procédure qui n'est pas tout à fait aussi facile qu'une prise de sang. Or, de plus en plus, grâce notamment au travail d'équipes scandinaves tout à fait remarquables, on va pouvoir doser dans le plasma, dans une simple prise de sang, comme vous en faites pour votre cholestérol ou pour la glycémie, les protéines anormales et faire un diagnostic précoce sur une simple prise de sang. Alors, ce ne sera pas un diagnostic isolé juste sur la prise de sang, ce sera tout à intégrer dans une démarche diagnostique qui pourra aller plus loin après, mais qui pourra contribuer à cette espèce de parcours de soins et parcours de diagnostic. Voilà donc pour les progrès sur les biomarqueurs. C'était juste une introduction pour situer le sujet et voir comment, depuis ce temps-là, on a pu, grâce à ça, évoluer et conduire des essais thérapeutiques adaptés. Et le principal, évidemment, ce sera, comme je l'avais dit, de pouvoir agir sur l'évolution de la maladie. Alors, l'essai clinique, c'est une slide qui paraît compliquée, mais en fait, elle n'est pas tant que ça. Vous allez voir le message qu'il faut en retenir. Donc, à gauche, une publication qui est une publication périodique, hein, comme vous voyez dans la presse, l'immobilier, etc. Enfin, c'est une publication que fait une équipe californienne, tout à fait remarquable, l'idée conduite par Jeff Cummings, qui est un alzheimerologue connu dans le monde. Et avec son équipe, donc, ils font une synthèse annuelle, en mars, de tous les médicaments en développement de la maladie d'Alzheimer. C'est ça qui est présenté dans le camembert à droite. Alors, il y a quatre secteurs, et je vais vous les décrire rapidement pour que vous compreniez un petit peu où on se situe. Donc, dans la partie droite, améliorer les fonctions cognitives, atteindre des troubles cognitifs neuropsychologiques, neuropsychiatriques, c'est les parties donc orange et bleue, ce sont des traitements dits symptomatiques, c'est-à-dire qu'on va chercher à corriger les symptômes en donnant des produits, des molécules qui vont améliorer peu ou prou la chose. On a déjà des choses, hein, on a ces fameux patchs anticholinestérasiques pour les fonctions cognitives, on a des antipsychotiques pour être neuropsychiatriques, des sédatifs. Bon, tout ça est bel et bon, vous voyez qu'il y a peu d'activités de développement là-dessus, il y en a quelques-unes, mais il y a assez peu de points, les points représentant des essais cliniques. La densité, plus il y a des densités fortes, plus il y a des essais cliniques. À droite, vous avez les traitements justement qui vivent à modifier la maladie, ce qui nous intéresse. Avec là encore deux parties. En violet, en bas, vous avez les traitements qui sont en fait des molécules classiques, molécules comme vous en prenez pour l'hypertension, cholestérol, hein, c'est des produits chimiques faits de synthèse, faits par la synthèse et qui permettent de traiter. Là, il y a beaucoup de monde, mais on ne va pas se focaliser là-dessus parce que c'est très difficile à présenter, c'est très disparate. Et bien malin qui aujourd'hui pourrait dire si c'est un anti-inflammatoire, un antidiabétique ou autre chose qui va fonctionner. Je prends ces exemples parce que dans cette catégorie, vous avez beaucoup de traitements testés dans l'Alzheimer qui sont des traitements déjà existants pour d'autres pathologies et qui sont développés parce que dans les modèles, on a pu montrer qu'ils agissaient sur telle piste, telle cascade d'événements biochimiques qui existent aussi dans des modèles d'Alzheimer. Donc, on s'intéresse à ça parce que c'est assez facile. On a franchi des étapes. On a déjà assuré qu'on avait un médicament qui est bien toléré par l'homme, qu'on peut utiliser de façon chronique et qui pourrait donc, s'il agit sur cette piste qui paraît intéressante, être utilisé pour l'Alzheimer. Mais je ne vais pas m'y attarder parce qu'aujourd'hui, le plus avancé, c'est vraiment le secteur en jaune en haut, qui sont ces fameux produits biologiques issus de gènes génétiques, qui sont en fait des anticorps. Des anticorps, donc ces substances que vous avez tous les jours chez vous, qui vont dans votre organisme, hein, et qui vont permettre, en se liant à des antigènes, à des choses anormales, des protéines anormales qui rentrent dans votre organisme sous la forme de bactéries ou pas, aller lutter contre, stimuler la réaction inflammatoire qui va vous en débarrasser. Donc l'idée, c'est d'amener des anticorps synthétiques qui vont effectivement être spécifiques des lésions de la maladie d'Alzheimer, anti-amyloïdes ou anti-tau, ce que je vous ai montré, les lésions que je vous ai montrées tout à l'heure, et permettre effectivement qu'on élimine ces protéines anormales. Les anti-tau, je ne vais pas m'y appesantir parce que c'est un secteur qui est un peu en retard par rapport aux anti-bêta-amyloïdes, et donc l'essentiel de mon intervention va porter sur ces anti-bêta-amyloïdes parce que c'est eux qui sont les plus avancés aujourd'hui et où effectivement il y a des nouvelles intéressantes que je voudrais partager. Alors pourquoi amyloïde? Pourquoi la bêta-amyloïde? En fait, l'histoire, c'est vraiment l'histoire, pour revenir à quelque chose que j'ai déjà prononcé tout à l'heure, le mot génétique. Il y a des formes génétiques de maladies d'Alzheimer, purement génétiques. On dit que c'est de l'ordre de 1%. C'est heureusement des familles connues et c'est assez rare, avec des pathologies qui peuvent commencer assez jeunes, voire très jeunes. Et on avait vu que ces causes génétiques étaient liées justement à une hyperproduction de la protéine bêta-amyloïde, d'où l'hypothèse que tout commence par la lésion amyloïde, qui déclenche une réaction et une agrégation anormale de la protéine tau, qui déclenche la mort neuronale et qui déclenche la perte de mémoire, la perte de la parole, etc. Donc ça, c'est l'hypothèse classique de la cascade amyloïde. Alors, ça a été largement débattu, évidemment, parce que les choses sont toujours plus complexes que ce qu'on pense au début. Et en fait, aujourd'hui, on pense que c'est peut-être la rencontre de deux processus qui concernent l'un, la lésion amyloïde, qui effectivement a son rôle en augmentant la diffusion du tau, etc., mais qu'elle-même, la protéine tau existe et que c'est probablement la rencontre, comme elle se développe dans des zones un peu différentes du cerveau, c'est la rencontre de ces deux-là qui provoque un phénomène qui devient pathologique et qui fait démarrer la maladie. Il faut encore peut-être rajouter un degré de complexité, parce qu'il y a aussi des anomalies de la barrière sans cerveau, il y a aussi des réactions inflammatoires anormales, il y a un certain nombre de choses comme ça qui se rajoutent sûrement, qu'il faut rajouter dans le panneau. C'est une maladie complexe, on le sait, le tableau n'est pas simple, mais petit à petit, on tire le fil, on en tient un, et on avance sur chaque piste l'une après l'autre. Alors la cible amyloïde, donc, ça fonctionne comment? Je reviens à ce schéma-là. L'idée, donc, couper le bêta-amyloïde, la courbe rouge, on la coupe, on évite que donc l'amyloïde s'accumule, et on espère que, comme ça, tout ce qui suit dans la cascade, si on la voit dans sa vision un peu simple, mais qui quand même est un facteur important, stabiliser l'affection. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, ça se passe par simplement une perfusion. Donc, on injecte en perfusion un produit, ces fameux anticorps fabriqués de synthèse, enfin, par génétique. On l'injecte en perfusion au malade. L'anticorps passe dans le sang, il diffuse dans le cerveau, se lie à la protéine anormale. Et à ce moment-là, les macrophages, qui sont les cellules spécifiques dans le cerveau de l'immunité, vont aller manger cette plaque anormale et petit à petit donc éviter la poursuite du processus pathologique. C'est l'idée. Est-ce que ça fonctionne? Ah oui, une petite parenthèse aussi. il y a plusieurs de ces anticorps amyloïdes. MAB, ils se terminent tous en MAB parce que MAB, ça veut dire monoclonal antibody, anticorps monoclonaux en français. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tous n'agissent pas au même niveau dans le processus de la maladie. Là, ce qui, ça vous figure, hein, si on suit la flèche, on part donc cette protéine APP, protéine précurseur de l'amyloïde, qui en fait est une protéine normale, présente dans la paroi des cellules et en particulier des neurones. Et elle subit des différents clivages par des enzymes qui aboutit à la libération de la protéine bêta-amyloïde, et c'est elle qui est nocive quand elle est en excès. Cette protéine a la possibilité de s'agréger en une dimension, puis deux dimensions, puis trois dimensions, et c'est comme ça que ça se forme les plaques. Et vous voyez qu'il y a plusieurs anticorps qui sont présentés sur cette diapo, et ils agissent à des niveaux différents. C'est essentiellement le message de cette slide, c'est que tous ne sont pas équivalents. L'un peut marcher, l'autre ne peut pas fonctionner, même si, en gros, vu de loin, c'est le même mécanisme, mais en fait, pas tout à fait dans le détail. Plusieurs, donc, ont été développés, et on sait que ça fonctionne, en ce sens que ça, effectivement, ça agit sur la plaque, ça réduit la plaque. Mais, vous voyez que c'est dans les années 2010 qu'on a commencé à avoir ce type de résultats. Mais, problème, c'est qu'on n'avait pas toujours l'efficacité clinique escomptée. Et c'est là qu'on s'est dit, en utilisant les biomarqueurs, en traitant les bons patients, en les protant suffisamment tôt, et peut-être, pour, en particulier des produits, le gantenerumab, en augmentant les doses, on va avoir de meilleurs résultats. Et à la suite d'un processus, comme vous voyez, d'essais d'erreurs et de progrès, comme la science le fait toujours malheureusement, c'est difficile de trouver tout de suite la bonne solution, on a pu arriver à l'approbation l'été d'avant, à l'approbation aux États-Unis d'un produit, l'aducanumab. Bon, c'était un gros progrès, effectivement, efficacité biologique indiscutable. Il y avait deux études de phase 3, donc les études terminales qui sont destinées à l'enregistrement. Efficacité biologique indiscutable, la courbe rouge, c'est les patients sous placebo. Les deux doses réduisaient la concentration de biomarqueurs. Le problème, c'est que l'efficacité clinique n'était pas au rendez-vous. Sur les deux études, l'une était positive, l'autre négative. Vous voyez les chiffres, des chiffres très proches pour l'étude en haut avec un petit P, c'est-à-dire l'analyse statistique de tout ça qui n'était pas significative. Et en bas, une étude où il y avait une différence qui était statistiquement positive avec un chiffre très bas pour ce fameux petit P. Et une différence qui est visible sur les chiffres. Alors, la question, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé avec ce produit? En fait, c'est une histoire un petit peu compliquée que je vais essayer de résumer très brièvement. Il y a eu une... C'est très bizarre qu'elle parle comme ça, c'est pas grave. Il y a eu une erreur majeure du laboratoire qui a... En fait, l'étude a été tronquée, elle a été interrompue trop vite pour des raisons justement d'analyse intermédiaire. Enfin bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais en fait, l'étude a été interrompue trop vite. Et c'est probablement pour ça qu'on a ce résultat mitigé vers à moitié vide, voire à moitié plein. Toujours est-il que, comme la réglementation américaine est assez stricte, parce qu'il y a toujours des avocats qui sont là pour guetter si tout le monde respecte exactement ce qui est prévu, la FDA a approuvé ce produit sur le fait qu'elle marchait sur les biomarqueurs, qu'elle marchait sur ces fameuses la baisse de l'amyloïde, en pensant, si ça baisse l'amyloïde, c'est que c'est bon, et donc on devrait avoir un vrai résultat clinique, et donc on l'approuve. Ça a été très contesté, très discuté. Le comité consultatif qui était contre a protesté. Il y a eu des démissions. Enfin, finalement, ce produit n'a jamais vraiment rentré dans la pratique aux États-Unis et le laboratoire l'a peu ou prou abandonné. C'est vraiment dommage que cette histoire se termine comme ça. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu cette erreur d'aiguillage à un moment avec une étude tronquée, alors qu'elle nous aurait apporté sûrement beaucoup d'enseignements. Personnellement, je pense que le produit a une efficacité, mais il n'a pas eu la chance de le montrer. Alors, où on en est maintenant? On a de nouveaux anticorps anti-amyloïdes, d'autres qui sont en développement. Et la semaine prochaine, je ne triche pas, c'est une réunion qui a lieu en Californie la semaine prochaine, il y aura deux produits, sur les trois que je vous montre là, qui vont montrer leurs résultats. L'un, ce sera plus tard, et tous ont ce fameux sont dans ce cadre d'approbation accélérée de la FDA, et donc s'ils montrent une efficacité, ils seront probablement approuvés assez vite. Alors la nouvelle, c'est qu'en fait, Il y a eu des conférences, des communiqués de presse pour deux de ces produits, ceux qui vont être présentés la semaine prochaine, et on sait d'ores et déjà que notamment le lecanemab est positif. Positif, et dans le peu qu'on sache à travers la communication de presse, c'est positif sur tous les critères. Le critère principal, qui est une échelle qui mixe un petit peu de tests, un petit peu d'activité du patient, un petit peu d'autonomie, enfin toutes ces... Donc un texte composite qui est assez intéressant et qui quand même reflète quelque chose de la vie du patient, c'est pas juste des tests. Les critères secondaires vont tous aussi dans le bon sens, nous dit le laboratoire. Reste à voir ça la semaine prochaine. Il y aura sûrement beaucoup d'enseignements à tirer de leur présentation. Un autre produit est malheureusement Roche a communiqué des résultats négatifs, une tendance favorable, mais pas conclusif. Mais comme je vous l'ai dit, tous les produits ne sont pas équivalents. L'échec de l'un n'entache pas le succès de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, questions et quelles conclusions on peut en tirer? Sur le lecanemab, l'étude est clairement positive. Et c'est très important, ça confirme la pertinence de la cible amyloïde. Et ça, je crois que c'est un message fort, parce qu'il y a eu beaucoup de contestations, même dans la grande presse, dans la presse grand public, sur le fait qu'il y avait eu des trucages, que de toute façon tout ça était faux, qu'on a dépensé des milliards en vain parce qu'on suivait une mauvaise piste. Non, on ne suivait pas une mauvaise piste, on suivait une bonne piste. Il ne faut pas croire simplement qu'on a la solution avec un seul outil. Il faudra probablement multiplier les outils, continuer la recherche de façon active. Et l'autre question qui se pose, moi, je pense qu'il sera approuvé. Alors, pour rebondir sur la question de Mme Carpentier sur quand, je pense qu'effectivement, il faudra un petit peu de temps encore, notamment en Europe. Et puis en France, il y a en plus la négociation du prix. Ce qui pourrait y avoir, par contre, effectivement, assez vite, peut-être 2024, ce serait un accès accéléré, un accès anticipé, ce qu'on appelait autrefois usage compassionnel. Si vous voyez, il peut y avoir des études qui permettront peut-être d'avoir accès aux médicaments. Encore faut-il entraîner le coup, ce sera des patients précoces, hein, des patients peu malades. Les questions dont on attend la réponse, c'est surtout l'étendue, l'intensité du bénéfice. Parce que le bénéfice est positif, mais c'est peut-être pas aussi ce qu'on attendait en termes de grandeur de l'efficacité. Et toute la question va être de savoir si, en étendant l'étude plus longtemps, on aurait des résultats meilleurs, et si on peut trouver des sous-groupes où le rapport bénéfice-risque sera le meilleur. Parce qu'aucun produit ne va sans incident. Il y a des effets indésirables. Quand la plaque est détruite par les cellules immunitaires, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Forcément, il peut y avoir des dommages si ces plaques sont au contact des vaisseaux, il peut y avoir des saignements, il peut y avoir de l'œdème. Donc, c'est des choses qui sont à surveiller. Et là encore, ce qu'il va falloir, c'est trouver la population qui va être la plus à même de bénéficier à plein de ce produit.
Est-ce qu'on laisse la place aux tout questions?
Tout à fait. Parce
que vous avez donné beaucoup d'informations.
Donc, comme je le disais, il faut continuer à tester d'autres voies d'approche, continuer la piste amyloïde, mais les autres aussi. Et puis, peut-être qu'effectivement, on pourra, si on voit l'avenir, prendre les patients qui ont... faire des évaluations du risque des patients, un risque global, et puis donc traiter ces bons patients. Voilà. Merci.
Merci à vous, docteur Genton. Merci beaucoup. Donc c'est un exposé avec bien sûr beaucoup d'informations. Je suppose que vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vais peut-être poser la première parce que vous avez parlé de ce médicament dont les résultats ont été avancés par un communiqué de presse. Est-ce que d'abord c'est habituel de procéder ainsi? Et un communiqué de presse n'est pas une étude scientifique publiée dans une grande revue médicale. Donc, quel est le crédit que vous accordez à ce communiqué de presse?
Alors, donc, on en saura effectivement beaucoup plus la semaine prochaine, hein, comme je le disais, et donc un congrès avec tous les experts du monde qui seront, enfin beaucoup d'experts du monde qui seront présents. Je pense qu'un laboratoire ne peut pas se permettre de raconter des carabistouilles. C'est pas un mot normand, mais ça dit bien ce que ça veut dire, parce qu'il y aurait trop de conséquences, hein, en termes financiers, l'action, etc. Enfin, vous savez que c'est, là aussi, on est sur un terrain extrêmement contrôlé. Donc, les communiqués de presse les engagent. Alors, ils ont peut-être montré qu'une partie qu'un aspect des choses, un aspect le plus favorable. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur ce qui va être raconté. Regardez bien le bénéfice-risque, regardez les sous-populations, ce sera très important parce qu'encore une fois, le bénéfice n'est pas non plus époustouflant, mais enfin, il y a vraiment quelque chose. Donc oui, du crédit, j'en accorde.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur.
Il y aura peut-être des accès précoces. En France, alors, il y a deux étapes. Il faut déjà qu'il soit approuvé en Europe. Le fameux produit dont je vous avais raconté qu'il avait été tronqué n'a jamais été approuvé en Europe. Il a été qu'aux États-Unis. En Europe, ça peut être un peu plus difficile pour des raisons justement de réglementation de l'agence européenne. Et il y aura une deuxième étape qui est le prix. Négociation de prix qui peuvent prendre un an de plus en France. Donc, enfin, je serais intéressé d'avoir tout à l'heure l'opinion du professeur Vallon, hein, mais je dirais 2025, voilà.
On est plus... Il a été expérimenté en France ?
Bien sûr, les centres, les grands centres français ont participé largement à cette étude, oui, à ces études. Et Rouen aussi. Non, pardon. Enfin, il y a eu Marseille, il y a eu Paris, il y a eu Lyon, il y a eu Bordeaux, je pense aussi. Enfin, je sais plus.
Quel est le mode d'administration de ce médicament ?
Alors, oui, je l'ai pas. Enfin, si je l'ai dit en passant, c'est une administration perfusion intraveineuse. Une des discussions qu'il y a eu justement à propos de celui qui a échoué et dont on a su récemment qu'il n'était pas significatif, enfin que l'effet n'était pas statistiquement significatif, c'était qu'ils ont essayé de donner une administration sous-cutanée. Peut-être qu'effectivement, ce mode d'administration fait un taux plasmatique qui va être moins haut, plus plat, si vous voulez. Et que peut-être il faut atteindre une certaine concentration sanguine pour passer dans le cerveau, pour être efficace. C'est peut-être ça qui s'est joué, parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ça confirme la bisamylide à contrario, parce que ce produit n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité, mais il n'a pas fonctionné non plus sur la plaque. Donc effectivement, le résultat clinique ne pouvait pas être au rendez-vous.
Ça veut dire que ce sera des perfusions à l'hôpital ?
Pour l'instant, ce sera des perfusions. Bon, je suis allé un peu vite à la fin. Une des questions qui va se poser, c'est comment instaurer une filière de soins capable de gérer ces perfusions. Effectivement, ça va être quelque chose de complexe.
Alors, il y a une question. Oui, on va peut-être vous donner un micro. Attendez deux petites secondes, on vous donne le micro.
J'ai une petite question par rapport au diagnostic précoce, parce que si j'ai compris, ce nouveau traitement, à partir du moment où effectivement on aura prouvé son efficacité, il ne sera utilisé que pour les gens qui seront testés diagnostic précoce. Enfin, oui. J'imagine, c'est ce que j'ai compris.
Oui, oui,
et justement, ce diagnostic précoce, ce sera uniquement en milieu hospitalier. Je suppose que pour le moment, c'est pas encore dans les usages. Dans quel délai est-ce qu'on pourra se faire diagnostiquer et comment ça va se passer ?
Oui, alors ça, c'est une question en pleine réflexion, effectivement, parce que les nouveaux outils impliquent nouveaux process. Il va falloir prendre en compte cette possibilité de faire des diagnostics avec une prise de sang. Il va prendre en compte l'accès à des nouveaux traitements. S'il y a des nouveaux traitements, il est légitime de faire un diagnostic tôt, voire très tôt. Il y a même des études en cours sur des patients qui n'ont pas de symptômes, qui ont juste des signes de biomarqueurs qui montrent qu'ils pourraient développer la maladie, on le croit en tout cas, mais pour l'instant, on n'a pas la réponse. Donc, il va falloir... Enfin, la communauté des cliniciens-chercheurs sur l'Alzheimer réfléchit à ces questions et se dit, bon, maintenant, c'est vos outils, il faut qu'on se mette d'accord sur... Quel process, quelle procédure on va utiliser, à qui on va proposer ça. Une des formules qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, il y a des tests, des batteries de tests accessibles par ordinateur, même sur un smartphone, hein, qui pourraient donner un signal d'alarme aux patients qui s'inscriraient. Avec une réponse positive, ben, on les prend en charge, on les examine à fond à l'hôpital, on les prend complètement en charge et on les explore. Avec un voyant vert et on leur dit bah écoutez refaites un test dans un ou deux ans mais pour l'instant tout est clair, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Enfin voilà, il va falloir vraiment repenser complètement cet entonnoir, c'est pas beau comme expression, mais cette filière si vous voulez de prise en charge, de diagnostic et de traitement.
Oui, encore une question ?
Donc, comment peut-on savoir qu'on relève de ce diagnostic ? Alors, si, est-ce qu'il y a des signes particuliers ? Enfin, bon, je ne sais pas. Est-ce qu'un ictus amnésique assez précoce peut ouvrir la porte à ce genre de choses ou pas ? Je signale que c'est une perte de mémoire momentanée. Donc, est-ce qu'il y a des troubles de, je sais pas, cognitifs particuliers ? Parce que ce n'est pas évident. Il faut que le médecin généraliste, je présume, dise « vous relevez éventuellement de ce... diagnostic, et il faut que les généralistes soient sensibilisés. Et ça aussi, c'est compliqué, je pense.
Tout à fait. Alors d'abord, l'ictus amnésique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une perte de mémoire transitoire, hein, très spectaculaire, mais transitoire. Et jusqu'alors, on pense que c'est relativement bénin, que ça n'a pas rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. D'autre part, les études d'aujourd'hui dont on a les résultats ont été réalisées sur des patients qui n'étaient pas tout à fait asymptomatiques. Ils avaient une plainte de la mémoire, ils avaient des petits signes d'accroche, si vous voulez. Ils étaient dans la catégorie troubles cognitifs légers. Il n'y a pas d'études encore, elles sont en cours, mais il n'y a pas encore d'études faites chez des patients complètement asymptomatiques. Elles vont venir.
Et ils ont quel âge, excusez-moi, les patients qui ont été... c'est à partir de quel âge, quoi ?
65 ans, oui.
Il y a des pertes aussi de spatio-temporelles. Enfin, il y a aussi dans l'espace, etc.
Alors là, vous rentrez dans un autre sujet qui est les formes de la maladie d'Alzheimer. Bon, il y a la forme classique, hein, qui est essentiellement perte de la mémoire au départ. Après, évidemment, ça s'étale à d'autres symptômes. Et il y a des formes, effectivement, qui peuvent débuter par un trouble du langage ou par un trouble visuel, qui peut d'ailleurs conduire à des consultations ophtalmo à tort, parce qu'elles montrent que l'œil est parfaitement fonctionnel, mais que c'est l'intégration des signaux qui était perturbée.
Et je vous parlais aussi de la sensibilisation des généralistes. C'est-à-dire que c'est quand même le point de départ. Et je pense que... Alors moi, c'est des gens que j'estime énormément. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, mais malheureusement, il faut aussi qu'ils soient sensibilisés, que alors on les alerte sur si vous avez des patients. Enfin, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a un travail de fond à faire. Alors qu'ils ont énormément de choses, bien sûr, déjà à affronter, comment on peut aussi les alerter ? Parce que ce n'est pas évident, je pense.
Tout à fait. Ils ont beaucoup de choses. Ils ont peu de temps, donc on ne peut pas leur demander énormément. Informer, ça fait partie des choses effectivement à faire. Je pense que leur fournir des outils aussi, comme effectivement ces tests, ces batteries, si vous voulez, qui pourraient être disponibles sur les supports digitaux, pourraient être une aide importante pour justement screener les patients qui doivent être examiner davantage ou les patients sur lesquels on peut être rassuré.
Mais vous ne pensez pas que quand ce médicament ou d'autres de ce type arriveront sur le marché, il y aura une mobilisation différente et de la part des familles et de la part de chaque individu, de la part des généralistes ? Est-ce que ça ne va pas aller de soi d'une certaine façon quand le médicament arrivera ?
Oui, tout à fait, vous avez raison. Le risque est justement celui de l'encombrement des structures existantes qui... Enfin, je ne sais pas quelle opinion aura le professeur Vallon sur ce sujet, mais c'est un problème, parce que je pense que l'organisation n'est pas prête encore à le gérer demain. Après-demain, j'espère.
Merci beaucoup, docteur Rémy Genton, pour toutes ces précisions sur ces molécules qui arrivent.